l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est le professeur Michel Pinger, diabétologue, fondateur du Centre européen du diabète de Strasbourg, qui fête cette année ses 30 ans et organise une soirée théâtre en scène contre le diabète. Ce sera le vendredi 5 avril et c'est mené par le groupement de théâtre du Rhin et au profit de l'initiative Vaincre le diabète. Michel Pinger, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai introduit cette interview en parlant des 30 ans du CEED, donc le Centre européen du diabète. Et je ne sais pas si on peut vraiment parler de fête. Vous, quand vous regardez les progrès réalisés, quand vous regardez en arrière, on peut parler de fête. Est-ce qu'on le célèbre aujourd'hui, les 30 ans du CEED ?
Alors, on peut parler de fête, bien sûr, parce qu'en 30 ans, un peu plus même, il s'est passé tellement de choses. Pour que les sujets qui vivent avec un diabète vivent de mieux en mieux, que véritablement c'est un bouleversement complet. Et c'est un bouleversement qu'on a vu année par année, en tout cas dizaines d'années par dizaines d'années, et ça continue, puisque aujourd'hui on leur permet de mieux vivre, d'être à l'abri des complications, de pouvoir avoir une vie sociale. Demain, on pourra leur permettre de ne plus rien faire. Aujourd'hui, il reste encore dans les personnes traitées pour diabète, il reste encore des contraintes liées aux médicaments, des contraintes liées au mode de vie, des contraintes liées aux injections ou au système de traitement d'insuline. Ces contraintes sont là, elles sont efficaces. Elles donnent des résultats. Ce qui veut dire que la santé mentale s'améliore, c'est très important. Parce que l'un des grands problèmes de toutes ces maladies chroniques, c'est la santé mentale qui en est la conséquence. Et dans ce domaine-là, alors tout n'est pas gagné, mais en tout cas, quand on fait des choses, qu'on se donne du mal et qu'on a des résultats, ce qui n'était pas le cas avant, on va beaucoup mieux.
Et on peut parler de fête. Est-ce qu'on peut vivre vieux avec un diabète diagnostiqué ? Parce que ça, on va parler également. La difficulté, c'est le diagnostic et tous ces gens qui s'ignorent parce que c'est une maladie insidieuse qu'on ne voit pas.
Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de l'enfant, celui-là, on ne peut pas le louper.
Oui.
Parce qu'il est symptomatique. L'enfant, dès qu'un enfant maigrit, urine beaucoup, s'alimente peu, il faut penser. Parce qu'on a une vraie progression du diabète de l'enfant avant l'âge de 15 ans, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment quelque chose qui malheureusement se banalise. Donc ça, il faut savoir chez l'enfant que si on a ces symptômes-là, il ne faut pas attendre, il faut regarder la glycémie. Chez l'adulte, dans le diabète de type 2, effectivement, on considère qu'on a à peu près 10 ans de retard au diagnostic. 10 ans de retard au diagnostic, ça veut dire 10 ans au cours duquel on peut préparer des complications. On sait que l'enjeu du diabète, ce n'est pas la glycémie en elle-même. La glycémie, elle est élevée.
Oui.
Mais c'est parce qu'elle est élevée que l'organisme est exposé à des stress oxydants et à des complications. Donc, si on est pendant 10 ans avec une glycémie un peu élevée, on a indiscutablement pu faire le lit déjà de pré-complications.
Donc, des complications telles que la cécité ou l'amputation.
Alors, heureusement, aujourd'hui,
ça, ce sont des cas extrêmes.
Ouais. Ce deviennent des exceptions. Mm-hmm. C'était malheureusement assez courant il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on voit malheureusement encore des cas parce qu'il n'y a pas une justice face à la maladie. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, sans doute pour des raisons génétiques, à telle ou telle complication. Donc on voit encore, je veux dire que l'impact principal, c'est le rein aujourd'hui, parce que là aussi, le rein, malheureusement, on ne sait pas le diagnostiquer. L'insuffisance rénale, on ne sait pas le diagnostiquer aujourd'hui. En France, on considère que 95% des sujets qui ont une insuffisance rénale, stade 1, 2 ou 3, ne le savent pas. C'est encore pire que le diabète, alors quand on a les deux en plus, il faut effectivement faire le diagnostic de la maladie diabète, mais faire le diagnostic aussi de l'état de santé de la personne. Et quand je parle d'état de santé, c'est bien sûr le recherche, ce qu'on appelle nous les comorbidités, c'est-à-dire la tension, le cholestérol, etc. Mais aussi tous les éléments dans le mode de vie qui sont fondamentaux. L'inactivité physique. On ne peut pas aujourd'hui faire un bilan chez une personne adulte de 40 ans, par exemple, sans évaluer son degré de, entre guillemets, fitness, des capacités physiques. C'est tout aussi important que le taux de cholestérol.
Ça fait partie de la prévention,
ça. Ça fait partie de la prévention, mais ça fait partie aussi du diagnostic. C'est-à-dire qu'on sait que cette personne-là, on doit agir
présente
d'une certaine
risques.
Manière. On présente des risques plus importants. Il y a le sommeil. On oublie complètement que le sommeil est un élément fondamental de la santé en général, mais de la prédiction au diabète en particulier. Et le sommeil aussi, c'est quelque chose que l'on ne respecte plus aujourd'hui. Pour de multiples raisons, vous le savez, hein, les écrans, les machins, les couchers tardifs, les levées tardifs, c'est pas bon tout ça. Donc voilà, il y a plein d'éléments, il y a le tabac, il y a les opioïdes, donc la drogue entre guillemets.
Oui.
Voilà, tout ça sont des facteurs importants et ça c'est quand même un élément essentiel, la qualité des relations sociales, la gestion du stress. On a vu, on sait, mais ça a été démontré à Strasbourg en particulier grâce à l'Eurométropole, grâce à l'Observatoire régional de santé avec nous, que Strasbourg est très concerné par le diabète, c'est pratiquement 9% de la population.
C'est énorme.
Avec une énorme disparité entre des quartiers très touchés, des villes, communes très touchées, Strasbourg, Schlittigheim, Eutnheim, Bischheim, et des communes très protégées, Eckversheim, Vandenheim, Blesheim, Plopsheim, etc.
Et c'est lié à quoi, ça ?
À la précarité.
D'accord.
La carte,
le stress.
La précarité. C'est plus que le stress, c'est la précarité. Il y a le stress, mais il y a la précarité, c'est-à-dire les moyens financiers de vivre. Et on a une parfaite... la carte du diabète colle exactement à ce qu'on appelle la carte de défaveur sociale. Donc vous voyez qu'il y a énormément de facteurs qui jouent les uns avec les autres, tout séparément, mais qui expliquent pourquoi aujourd'hui ces maladies chroniques deviennent la première cause de mortalité dans le monde. Il faut bien savoir qu'avant 1950, l'enjeu de la société, c'était les pandémies de maladies aiguës. Peste, choléra, grippe espagnole, et toutes ces maladies-là, conflits, guerres, famines, etc. C'était ça l'enjeu. On ne parlait pas du diabète comme dans
l'enjeu. Vous parlez de pandémie. Le diabète est une pandémie
mondiale. C'est une
pandémie.
C'est une vraie pandémie. Ça n'était pas avant 1950. Ça n'était pas et ça le devient aujourd'hui. Et donc, en fait, on assiste à une transformation complète de notre santé qui voit que ces maladies, ces pandémies aiguës, regardez la Covid. La Covid, elle a finalement fait beaucoup moins de dégâts que la grippe espagnole. Et pourtant, le virus était sacrément plus agressif.
Mais parce qu'on COVID... avait peut-être les moyens de se protéger et de mettre une prévention en place.
En même temps, la Covid est devenue une maladie chronique.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, avant, on avait un aigu, on en mourait, on guérissait, c'était réglé. Aujourd'hui, même des cancers sévères deviennent des maladies chroniques. Voilà, donc il faut savoir qu'en 2050... c'est-à-dire 100 ans plus tard que 1950, on n'aura plus de décès par des maladies aiguës, on n'aura que des décès par maladies chroniques. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est le cholestérol, c'est la dépression qui va être la première cause de maladies chroniques dans le monde. Ce sont toutes ces pathologies-là, les pathologies respiratoires, les pathologies hépatiques, les atteintes rénales, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu avant et dont la prise en charge n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. La médecine que moi j'ai enseignée en fac de médecine, elle est complètement désuète aujourd'hui. Aujourd'hui, un médecin, il ne soigne plus. Un médecin, il accompagne.
Il y a quelque chose d'holistique de prendre en totalité la façon de vivre du patient et pas uniquement sa pathologie.
Et que ce soit le patient en premier qui prenne cela. C'est pour ça qu'on ne parle pas de sujet diabétique parce que c'est déjà, on discrimine, on met dans un... On parle d'être humain, de sujet... qui vivent avec une maladie chronique. Et l'objectif des soignants, c'est de permettre de mieux vivre avec cette maladie chronique, avec l'espoir d'un jour, bien sûr, de les guérir, mais aujourd'hui, on n'est pas là, puisque on est au tout début de ces maladies. Et le diabète, c'est la première pandémie de maladie chronique qu'on ait identifiée et dont on ait compris les mécanismes, ce qui est très important.
Aujourd'hui, en 2024, alors vous êtes chercheur aujourd'hui, donc je disais en introduction que vous êtes diabétologue, vous ne consultez plus auprès des patients, en revanche vous êtes toujours très investi dans la recherche. On en est où aujourd'hui ?
À côté de la recherche, on en est à des choses extraordinaires. Il y a grosso modo deux types de recherche. Et il y a la recherche, je dirais, industrielle. Celle des grands groupes qui permet de mettre à disposition des outils de traitement phénoménaux. Un enfant qui a un diabète, aujourd'hui, il peut disposer de ce qu'on appelle de pompe en boucle fermée, c'est-à-dire de système qui lui apporte l'insuline qui lui manque, qui mesure la glycémie, qui adapte l'insuline en fonction de la glycémie et qui permet à l'enfant et à ses parents de dormir la nuit tranquillement, il ne se passera rien. C'est déjà un progrès énorme, ça c'est l'industrie.
Oui, il y a toujours cette dépendance à la machine.
Il reste ce besoin de la machine, c'est clair, il reste cette dépendance à la machine, mais la machine fait... Alors, pas tout à fait tout, il faut gérer un peu mieux les repas et les activités physiques, mais enfin, grosso modo, le bouleversement est énorme. Et puis, il y a les grèves d'îlot qui vraiment vont prendre une deuxième dimension, puisque maintenant c'est remboursé par la Sécu, donc... Et là, c'est encore plus, parce que là, il n'y a plus de dépendance de la machine du tout. Là, je parle pour le type 1, des progestérone. Pour le type 2, donc le plus fréquent, c'est 90% des sujets qui ont un diabète, on a une flopée de nouveaux médicaments qui sont extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'il ne fallait pas soigner le pancréas. On dit toujours que le diabète, c'est le pancréas. Non. Le pancréas, c'est la première victime dans l'histoire. Mmh. Et le diabète, c'est une maladie de l'organisme dans son ensemble. C'est une maladie du tube digestif, la malnutrition, la dysnutrition.
Donc qui est liée à l'alimentation, comme on n'en a pas parlé de ça. Oui.
On va y venir. Et l'activité physique notamment, mais aussi le stress. Et en fait, on sait aujourd'hui, et c'est ce que nous démontrons nous au niveau du labo, que le muscle, intestin, cerveau sont aussi et peut-être d'abord des glandes endocrines. C'est-à-dire que le muscle sécrète des hormones, l'intestin sécrète des hormones, le cerveau sécrète des neuromédiateurs et des hormones. Et que ce sont ces messages-là qui vont détruire le pancréas et qui vont conduire au diabète. Donc, quelque part, la gestion et la recherche doivent se tourner vers ces régulateurs du pancréas, beaucoup plus que vers le pancréas lui-même. On a un très beau résultat déjà au niveau de l'intestin où une des hormones, le GLP-1, sert aujourd'hui, c'est le meilleur traitement du diabète de type 2, avec des résultats spectaculaires sur la glycémie, sur le poids et sur le risque cardiovasculaire. Puis il y a d'autres médicaments qui sont les glyphosines qui agissent sur le rein en permettant l'élimination du sucre et qui eux aussi sont des résultats extraordinaires, notamment sur la prévention cardiaque, prévention rénale et sur la glycémie. Et on aura, nous sommes sur le point de mettre... de proposer la première hormone musculaire, qui est la décorine, qui a, chez l'animal, démontré sa capacité à faire réverser un diabète de type 2, à prévenir l'apparition, à éviter les complications. Donc voilà, on est dans une explosion passionnante, parce qu'on a compris aussi comment tout ça marchait, quoi.
Oui, et puis qu'on est sur la première marche de quelque chose qui va exploser pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, vous cherchez, vous avez besoin de gros moyens pour la recherche contre le diabète. Vous avez l'impression des fois d'être un peu le parent pauvre, contrairement on va dire, au sida ou au cancer. On ne mesure pas toujours l'urgence également de donner des fonds à cette recherche-là précisément.
Ah, c'est évident. C'est évident que le diabète est encore pénalisé par sa mauvaise image passée. Le diabète dans le passé, c'était la maladie des gens riches, des bouffeurs, des buveurs, etc. Mmh. Ça passait pas bien sur le plan humanitaire. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gens les plus touchés, c'est les pays en voie de développement. Les gens les plus touchés, c'est ceux qui ont subi récemment des conflits sévères. Nous, on a fait une démonstration que l'un des pays les plus touchés au monde, c'est le Cambodge, où l'on vit normalement, alimentairement, activité physique, mais on a eu le génocide de Pol Pot il y a 30 ans. Et on sait aujourd'hui que tous nos gènes qui vont prédisposer au diabète sont des gènes qui se sont modifiés pour lutter contre la malnutrition et pour permettre l'activité physique. Aujourd'hui, on est passé de l'autre côté. On se nourrit, on n'a plus de bonne nutrition, on n'a pas une nutrition normale, on a une dysnutrition. La nutrition américaine, la nutrition rapide, la nutrition plat con, etc. Et puis on ne bouge plus. Je vous rappelle qu'en France, en 1770, un Français avait 8 heures d'activité physique nécessaire et indispensable pour sa vie. Travail, déplacement, etc. Homme comme femme. 8 heures. En 2021, ce temps-là est passé à 41 minutes.
Et en salle, pas forcément en grand air.
Mais les jeunes ne savent pas. Les jeunes ne savent pas ça. Les jeunes ne voient pas ça.
Ils retiennent.
Alors, ils vont se modifier, c'est clair. Mais il y a toujours des choses qui viennent réactiver. Et on a une énorme différence, par exemple, entre le grand nord-est de la France et la Bretagne et la Corse, qui sont les deux extrêmes du diabète en France. Et c'est un facteur 3, hein, 3 fois plus. Et on a cherché longtemps pourquoi. Et on a à peu près aujourd'hui la démonstration que, en fait, c'est la malnutrition des hommes et des femmes durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a favorisé l'explosion d'un baby-boom avec des enfants très prédisposés à l'obésité et au diabète parce que le père était mal nourri, la mère était mal nourrie. Il y a eu une modification qu'on appelle épigénétique et l'enfant naît avec des moyens de défense contre la malnutrition et permettant l'activité physique. Donc, quelque part, on est... Alors qu'en Bretagne ou en Corse, on n'a pas eu les mêmes souffrances. Donc, il faut aussi savoir, et c'est important, que la personne qui souffre du diabète, entre guillemets, est coupable de certaines choses, c'est évident. Mais elle n'est pas responsable. Elle est responsable très largement pour une petite moitié du risque. Mais beaucoup de choses sont jouées à la naissance. Joue à naissance parce que nos gènes reflètent soit la mémoire très ancienne, celle du chasseur à l'époque qui avait besoin de faire des réserves d'être obèse, et celle plus récente des grands drames. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit qu'on n'est pas sorti de cette situation, de cette problématique-là, qui va continuer à être, et c'est important, très différente selon les pays et selon les contextes.
Alors, le temps imparti dans cette interview est passé. Ce sont des thèmes que vous abordez, ça, dans votre livre que vous avez sorti ?
Absolument, ce sont des thèmes, et c'est même le premier chapitre, où on aborde tous ces aspects épidémiologiques, d'histoire, de comprendre les choses. Alors, aujourd'hui, il y a encore plus d'informations, mais on va sortir le numéro 2. Rappelez-nous
juste le nom de ce livre.
Le diabète, mieux le comprendre pour vivre.
Donc évidemment, j'invite nos auditeurs intéressés pour avoir plus d'éléments encore aujourd'hui de se procurer ce livre. Alors, je vais juste rappeler les éléments qui nous vous ont fait venir ici aujourd'hui. C'est cette soirée théâtre solidaire, note poétique en scène, c'est en français, en alsacien, ça se passe au CEED, c'est un centre qui est situé au niveau de l'hôpital de Haute-Pierre. L'entrée est libre.
L'entrée est libre, le stationnement est facile. Et je dois dire que c'est quand même presque la 20e manifestation de ce groupe au profit du centre. Et je dois dire qu'on a, alors vous dites que l'on n'est pas soutenu forcément très fortement au niveau de la recherche institutionnelle.
Oui.
Par contre, en Alsace, au niveau de la solidarité, c'est extraordinaire. Et lorsqu'un groupe travaille avec nous, il travaille longtemps avec nous.
Bah écoutez, on va les remercier. Il s'agit du Théâtre du Rhin. C'est au profit, évidemment, de la recherche contre le diabète. Michel Pinger, merci infiniment. Donc, je rappelle, vous êtes diabétologue, fondateur du Centre européen du diabète, ici à Strasbourg. Merci de votre intervention.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.